collectif d'artistes Faubourg 132, basé à Lille, à la Malterie, travaille autour du développement durable et propose de nombreux chantiers participatifs. Léa Barbier est artiste-designer. Elle anime des ateliers de création à partir de récupération, comme la réalisation de cabas à partir de thé d'oreiller. Léa Barbier.
On a tout un pôle recherche autour de la création de procédés de revalorisation. Et en fait, on travaille beaucoup en partenariat avec des ressourceries ou notamment Emmaüs. Et en fait, cette idée, elle est un peu venue du fait que les ressourceries reçoivent souvent des thés d'oreiller orphelines, donc qui ne sont pas forcément achetés parce que les gens préfèrent acheter des paires. Donc on s'est dit, mais ok, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces thés d'oreiller seuls, donc orphelines. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas en faire des cabas, puisqu'il y a déjà cette poche en fait, qui peut accueillir des objets ou des choses. Du linge, etc. Et du coup, on fait des cabas à partir d'une thé d'oreiller et d'éléments assez simples de bricolage, c'est-à-dire de la sangle et dérivés.
Faut simplement être imaginatif.
Oui, c'est un peu ça. Ouais. Quand on est intéressé par le développement durable et le zéro déchet, l'idée c'est déjà aussi de prendre conscience que les déchets sont des ressources, peuvent être des matériaux. Et aussi avoir un peu d'imagination pour la transformation et leur revalorisation.
Ce qu'on cherche également, c'est des choses qui plaisent. La question du beau se pense également, ou alors on est plutôt uniquement du côté pratique et utile de l'objet.
En fait, le design, c'est un mélange des deux, c'est-à-dire qu'on va chercher un usage, on va chercher à être légitime par rapport à un fait de société, là en l'occurrence la revalorisation des déchets. Et puis évidemment, on va être dans un côté quand même de recherche d'une certaine esthétique, en tout cas d'une certaine pertinence dans l'assemblage par exemple. Là, ce qui nous importait, c'était d'amener un élément que les gens pouvaient acheter après avoir fait l'atelier. En fait, l'idée, c'est pas de garder ce principe-là pour nous, mais d'utiliser donc des choses qu'on peut avoir dans les magasins de bricolage pour se dire que voilà, le public qui aura expérimenté pourra réitérer l'expérience et refaire des sacs, le montrer à sa famille pour pouvoir le partager et le refaire soi-même.
Aujourd'hui, le fabricant, marchand de sacs, il devient quoi dans l'histoire ? C'est autre chose ? On se pose quand même la question, ou alors on est véritablement sur une autre approche pour un autre usage ?
En fait, on est vraiment sur une autre approche. On n'est pas du tout en concurrence avec des marchands ou des fournisseurs en fait, d'objets manufacturés. On est sur une autre approche, c'est-à-dire essayer d'imaginer une alternative. En fait. Une alternative à l'achat du neuf. Il faut quand même être conscient qu'on est face à un problème de revalorisation, qu'il y a de plus en plus de déchets qui ne sont pas forcément revalorisés. Et donc l'idée, c'est de proposer un circuit alternatif d'objets du quotidien. Donc là, en l'occurrence, on sort un objet qui est la tête d'oreiller, qui n'est pas vendu ou qui est abandonné, pour en faire quelque chose, pour donner une seconde vie, quoi, pour créer un nouveau cycle.
Aujourd'hui, justement, aux designers, à ceux qui inventent et qui créent peut-être de nouveaux besoins, on leur demande également de penser à l'avenir de ce qu'ils vont pouvoir produire et offrir aux clients.
Évidemment, en fait, un designer, il n'est pas uniquement créateur de marchandises. Enfin, il l'est, mais il est aussi censé penser à justement à la seconde vie, troisième, quatrième vie de l'objet qu'il va créer. Donc, c'est toujours dans un esprit de cycle, en fait, d'un objet, c'est-à-dire qu'on pense son matériau, comment le matériau va être recyclé à l'issue de l'utilisation. Et nous, on est vraiment dans cette démarche-là. Finalement, on prend un peu l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on se dit qu'il y a énormément d'objets qui ne sont plus utilisés, et alors qu'est-ce qu'on fait à la suite d'un public qui aura jeté des choses, qu'est-ce qu'on fait à la suite de ça ?
Il y a des matériaux plus nobles que d'autres ?
Oui, il y a forcément des matériaux plus nobles que d'autres, mais par exemple, on aurait très bien pu se dire on peut utiliser du cuir pour faire l'éance du sac et tout ça, mais vraiment l'idée pour nous, c'était de créer là un procédé accessible qui soit facilement appropriable par le public en fait. C'est pour ça que la sangle, c'est un produit qui est assez courant, qui est pas forcément très cher, et donc voilà, l'idée c'était vraiment de montrer aux gens, voilà, vous pouvez facilement fabriquer vos objets avec les choses accessibles près de vous, donc dans les magasins de bricolage.
L'idée, c'est de se dire, avant de jeter, je dois imaginer ce que ça peut devenir. Je pense notamment, par exemple, j'ai vu des designers qui travaillent beaucoup avec des chambres à air de vélo.
Il y a une génération en fait de designers depuis les années 60-70, donc c'est quand même pas récent hein, finalement, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites, qui se disent ok, donc il y a des choses jetées, et donc c'est, ça peut être des matériaux comme ce que vous avez dit, les chambres à air, ça peut être aussi le plastique en fait, le plastique qui peut être valorisé en faisant par exemple un matériau pour l'impression 3D. Impression 3D, on entend beaucoup aussi parler de cette pratique-là. Et puis, il y a aussi d'autres choses. Nous, par exemple, on a fait une résidence à Emmaüs Forbach où on revalorise de la vaisselle. On la concasse et on crée un nouveau matériau de fabrication.
Et elle devient quoi, cette vaisselle ?
Et elle devient comme un matériau de construction, c'est-à-dire comme un béton, en fait. Donc, on peut faire des objets décoratifs, des dalles d'extérieur, du mobilier urbain. Et en fait, le matériau qui s'appelle brique, parce que dans les salles de vente d'Emmaüs, c'est justement la vaisselle, en fait. Ils appellent ça du brique. Et donc, après avoir concassé cette vaisselle, on la mélange à un liant qui nous donne un béton. Et donc, l'idée, c'est de créer donc, une filière de recyclage, un peu comme le relais qui a été créé dans les Hauts-de-France.
Sur les vêtements, essentiellement le textile au départ.
Exactement, sur le coton, le jean, pour faire de l'isolant en fait, pour faire du métis. Et donc là, l'idée, c'est de créer cette filière de recyclage qui soit donc vectrice d'économie, d'emploi, mais aussi, voilà, c'est quelque chose qui parle de ce que fait déjà beaucoup Emmaüs, c'est-à-dire la revalorisation. Ils sont déjà très moteurs en fait, très moteurs dans ce milieu-là. Et donc de cette vaisselle invendue, on fait donc un matériau qui est à 80% composé de vaisselle.
Il y a donc le côté environnemental du recyclage, le côté social de l'insertion, ça aussi ça compte beaucoup dans la démarche.
Ah oui, toujours en fait, c'est l'économie circulaire et solidaire en fait. C'est que l'idée c'est de créer des principes. Donc il y a deux parts en fait dans le design social qu'on pourrait appeler comme ça. C'est-à-dire que d'une, par exemple avec l'affaire est dans le sac, donc les sacs à partir de thé d'oreiller, on veut transmettre à un public des manières de fabriquer leurs objets, c'est-à-dire essayer de leur proposer de s'approprier leur environnement. Et d'une deuxième façon, donc, dans cette recherche qu'on fait par exemple avec Emmaüs, c'est de se dire, voilà, ces nouvelles filières de recyclage ont un potentiel énorme en fait en termes de capacitation et de création d'emplois. C'est une possible ouverture sur vraiment une dynamique d'emploi, d'économie.
La démarche du collectif 132 s'inscrit dans une dynamique du « do it yourself » éco-responsable, ce qui permet aux participants des ateliers d'être fiers de leur réalisation. Léa Barbier.
Ah bah oui, bien sûr. Et toutes ces démarches-là, elles vont dans ce sens. C'est-à-dire que, par exemple, là, pendant une après-midi, on va montrer à des gens qui sont capables de fabriquer eux-mêmes des choses. Notre idée, c'est aussi de recréer un lien entre les individus et les objets. Parce que c'est vrai qu'il y a avec la société de consommation depuis les années 60, il y a une distance entre les consommateurs et les objets, puisqu'ils sont devenus jetables. Il y a une sorte d'accélération des achats, du changement avec les modes, etc. Et du coup, là, l'idée, c'est de leur montrer qu'ils peuvent fabriquer eux-mêmes. Et du coup, en fabriquant, voilà, comme vous dites, on se réapproprie ses propres compétences même, en fait. On se rend compte qu'on est capable de faire des choses. Et en plus, l'objet, il obtient une nouvelle valeur, puisque ça vient du travail de nos mains, d'un effort. C'est un effort aussi, en fait, qui est fait. Et un investissement qui fait que ça a une valeur, quoi.
Aujourd'hui, le Denizer, c'est quoi ? C'est un artiste ? C'est un agent de l'environnement ? C'est un acteur social ? C'est un peu tout ça ?
Il faut essayer d'évacuer l'idée qu'un designer, c'est uniquement un créateur de marchandises et surtout, ce n'est pas un créateur d'uniquement de belles choses. C'est-à-dire que un designer, c'est quelqu'un qui prend conscience, qui a un regard en fait critique sur la société et qui propose des solutions à différentes problématiques. Là, en l'occurrence, c'est le problème, en tout cas, la filière du développement durable. Donc, c'est comment on crée des choses à partir de déchets. Aussi, en créant des filières de revalorisation, c'est comment on peut créer de l'emploi d'une nouvelle manière. Enfin, c'est proposer de nouveaux schémas, en fait, dans la société.
Et puis il y a toujours de nouveaux objets parce qu'on ne vit pas aujourd'hui comme on vivait hier. Je pense par exemple tout ce qui est coque de protection des portables. Ça devient quoi ça? On peut en faire quelque chose, on peut être imaginatif et puis se dire à partir de ça je vais pouvoir créer quelque chose.
En fait avec du temps, toujours en fait, on peut trouver des solutions évidemment pour revaloriser. Alors là j'ai pas d'exemple concret en tout cas pour les coques, mais c'est vrai qu'il faut du temps pour trouver des applications aux déchets, mais on trouve toujours quelque chose.
Il y a un temps d'expérimentation quand on cherche, justement, il y a des choses qu'on souhaiterait faire et puis ça fonctionne pas, on pense à autre chose.
Bien sûr, et c'est super important de se dire que l'erreur est humaine et que c'est pas grave et que ça marche comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, pour le matériau brique, c'est un matériau qu'on a créé en 3 ans. Parce qu'il a fallu réfléchir, il a fallu d'abord comprendre la structure Emmaüs, comprendre quels étaient leurs déchets problématiques. Et ensuite, il y a toute une phase de 1 an et demi de recherche. Parce que pour être légitime et pertinent, il faut chercher en fait. La première solution ne sera pas forcément la bonne. Et c'est en créant, en faisant des erreurs et en apprenant de nos erreurs que c'est comme ça que ça fonctionne en fait.
Faubourg 132, pourquoi ?
Faubourg 132 parce qu'on est 3 artistes designers, donc Chloé, Jason et moi, Léa, qui nous sommes rencontrés à l'école en fait, école d'art et de design de Valenciennes, qui était au 132 avenue du Faubourg de Cambrai. Donc on a voulu garder ce lien-là en fait qui nous unit par ce nom.
Pour retrouver ce que vous faites, qui vous êtes, ce que vous proposez, il y a un blog, il y a une page Facebook, il y a quelque chose?
Alors on a un site internet, donc faubourg132.fr, où vous allez pouvoir retrouver tous nos projets. Et on est sur Facebook et Instagram, faubourg132 aussi. Voilà.
Et vous adressez à qui, hein? Aux centres sociaux, aux associations, aux collectivités?
Oui, en fait on travaille beaucoup avec des associations. Mais aussi des structures culturelles comme la condition publique. On travaille beaucoup avec la métropole européenne de Lille et beaucoup de centres sociaux notamment. Plutôt sur le territoire des Hauts-de-France.
Retrouvez l'actualité du collectif 132 sur internet et via les réseaux sociaux. Interview, reportage, réalisation, Hervé Dujardin pour Radio Scarpe Sensée.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.